KKT 90.3.
Je rêve à Rio devant ma radio. J'habite un petit haut dans l'est de Rio. C'est pas chaud, chaud, chaud. Je me baigne en photo dans mes petits journaux. Je vois des vedettes qui payent pas leurs dettes se pousser du fret avec la palette. Moi je mange mon spaghette. J'ai le cœur en mille miettes, gros comme l'île paillette. C'est pas pour moi, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme au royaume du calcium. J'ai jamais été plus loin que mon laurier. Je me promène à pied, je me suis pas marié. J'ai pas pu trouver, je suis abandonné par ma destinée. Mon meilleur ami, c'est le gars de l'épicerie. Ma bière, mes biscuits, j'ai tout à crédit, sauf le vendredi. C'est pas rose la vie, paye où on te saisit. C'est pas pour moi, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme au royaume du calcium. Je pouvais plus payer, ils sont venus chercher mon set combiné. J'ai même pas broyé, je peux encore rêver que je me fais griller. Une plage en papier n'est abandonnée par ma destinée. Je mourrai damné, mais avant de creuser ma tombe glacée, je voudrais déplacer mon soleil brisé. Cassé, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, qui chôme au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi. Ipanema, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme au royaume du calcium.
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90.3 FM. On vient de commencer la journée avec une pièce du grand Robert Charlebois, ce grand homme, ce grand artiste bien d'ici. Et c'était la pièce
« Je rêve à Rio ».
Je rêve, je rêve. C'est une chanson qui nous donne envie de chanter, Marc-André.
Ben oui.
Comment ça va, Marc-André?
Ça va très bien. Ça va très bien. En commençant avec Robert Charlebois, c'est un vinyle, encore plus le fun, surtout la pochette est super funky. Ça va bien, on a une super bonne émission pour vous.
Pochette psychédélique.
Oui, je vais la décrire un peu. Dans la pochette, il dit « À tous mes frères de son, j'ai 30 ans. C'est mon 10e disque. En l'an 2000, j'aurai 56 ans et j'ai l'intention d'être là. »
Wow.
Et là, il est comme un maestro, il conduit une orchestre avec sa baguette, avec son tuxedo, bleu jeans psychédélique, et il y a une boule dans les mains qui est la terre, qui est comme un ballon, et les couleurs sont plus jaunes et psychotroniques que ça, tu meurs, je pense, tout simplement. Et l'album s'appelle juste Charlebois, il y a du véhicule sur Barclay, et à Lando, Robert, il vole au-dessus de la ville, et il y a quatre bras, fait que ça vole encore mieux, fait que je sais pas s'il fait des battements d'ailes, mais c'est comme la vieille version de Superman.
Robert Charlebois, version libellule.
Ah, version
avec
libellé.
4L.
Oui, puis là, il s'en va pas à Rio parce qu'il n'a pas l'air à voyager bien, bien loin.
Oui, oui, oui.
Puis il fait fret là-bas, là-bas. C'est pour les rois. Exactement.
Oui, oui, exactement. La semaine passée, on avait mis de la musique du Brésil.
Oui, ça me réchauffe.
Avec Sergio Mendes, cette fois-ci. Mais c'est Robert Charlebois qui aimerait y être à Rio.
Oui, tout.
Mais qui est pogné ici.
Tout de bon, les gars, gauche, tout au Brésil.
Exactement. Moi aussi, je vais en prendre deux.
Tu vas en prendre deux. C'est bien, j'en prends.
Deux bières, s'il te plaît. J'ai rien compris de ce que tu viens de dire.
Maluco.
OK, d'accord. Écoute, on a une émission chargée aujourd'hui. On va parler de films, de musique et de bande dessinée, encore une fois.
Oui, on s'en sort pas. C'est notre maladie. Ça se guérit pas.
Ça se résume pas mal à ça, cette émission-là. Hein? Pour les gens qui nous connaissent pas. Là.
C'est notre recette secrète. On est pogné là-dessus, c'est nos addictions.
Mais écoute, il y a tellement de choses à découvrir, tellement d'univers à partager.
Ouais.
On va commencer avec un film. C'est moi qui vais parler, hein, pour une fois.
Wow!
C'est moi qui vais parler de quelque chose.
C'est une première, je t'écoute et je ferme ma boîte.
Tout le monde, enregistrez, sortez vos cassettes audio, enregistrez la chronique qui s'en vient de moi-même. Marc-André, tu connais le fameux bar new-yorkais qui n'existe plus aujourd'hui, mais le CBGB.
De cossé.
Le CBGB, qui était l'acronyme pour Country, Bluegrass and Blues.
Yes.
Qui est un fameux bar mythique des années 70-80, qui a fermé dans les années début 2000, là, qui a vu la naissance de nombreux groupes New Wave et Punk de la scène new-yorkaise mi-70,
mm-hmm.
dont les fameux Ramones, Blondie, Iggy Pop, etc., etc.
Patti Smith, Television.
Exactement, Talking Heads. Donc, j'ai vu un film sur un streaming, toi, Amazon Prime, et je suis tombé là-dessus en fin de semaine, parce que bon, comme tout le monde, on zappe, on ne sait pas quoi choisir, puis j'ai vu ça, puis c'est vraiment un très bon film. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un film biographique sur le fondateur du bar qui s'appelle Hilly Kristal, donc qui a vraiment existé, qui est mort en 2007. Et ça montre vraiment le début, donc les déboires de l'ouverture du bar CBGB. Donc ça commence avec lui qui découvre le local, qui est un bar qui s'appelle le Palace, dans le quartier Bowery à New York, qui est dans la pointe sud de Manhattan. À l'époque, c'était un quartier...
C'est rock'n'roll.
Rock'n'roll, vraiment très, très, très... ultra défavorisé avec beaucoup de criminalité. C'était en 1974 environ. Et lui décide d'acheter le local, d'acheter le bar. Il va voir sa mère pour l'aider à financer l'achat.
Un petit emprunt de moment.
C'est un monsieur qui a beaucoup de difficultés à gérer ses finances. On le voit tout au long du film. Et décide d'ouvrir le local. Et lui, il avait en tête d'ouvrir un bar pour faire jouer de la musique country, bluegrass et blues.
C'est dur à dire, hein?
Oui, surtout dans une émission de radio comme ça. Mais country, bluegrass and blues, parce que lui, dans sa tête, ben, c'était ça qui était comme... qui était le next big thing, là, tu sais. C'était vraiment ça qu'il pensait. Que
le country à New York, c'était le next big thing?
Lui, dans sa tête, c'était l'avenir. C'était, il pensait avoir un filon qui allait être rentable, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas capable de booker des bandes country.
De ce style-là. Ouais.
Exactement. Donc là, les seules bandes qui venaient à la porte, ben, c'était les bandes locaux qui n'avaient pas de scène pour pour performer. Puis le premier groupe qui est venu cogner à la porte, c'est le groupe Television. Puis on le voit très bien dans le film. Donc vraiment, c'est vraiment une reconstitution de ce qui s'est passé. C'est vraiment génial. Donc on voit le band qui arrive avec leur manager qui vend leur salade. Puis lui, Hilly Kristal, qui est vraiment sceptique, puis qui écoute 5 minutes, puis il est comme, « OK, vous savez quoi, je vais essayer, je vais vous donner une chance. » Même si lui, c'était pas pour ça qu'il voulait faire un bar de spectacle, mais il a comme senti que il pouvait avoir quelque chose, puis il a vite compris que, de fil en aiguille, toutes les autres bands qui venaient cogner à sa porte, c'était des bands soit New Wave, soit un peu punk, qui avait une expression différente, mais qui était une expression vraiment intéressante puis qui était vraiment pertinente. Puis, rapidement, son bar est devenu super populaire dans la scène underground.
Exact.
Tous les groupes underground de cette époque-là, même ceux à l'extérieur de New York, des autres États aussi,
passaient par là.
Voulaient jouer là-bas. Et la foule, c'est ça. C'était vraiment la place pour aller voir des shows de musique. Puis, on les a nommés. Donc, il y avait Blondie, qui a beaucoup...
Mais c'était un trou, hein, finalement. C'est comme un dive bar fait
exactement.
Sur le long. Là. C'est comme un grand corridor pris entre deux buildings.
C'est vraiment un tout petit local qui était hyper délabré. C'était vraiment dégueulasse. Puis même pendant que lui avait le local, ben quand il l'a acheté, ben il n'a pas tellement plus pris soin que ça.
Il l'a pas retapé.
On le voit très bien dans le film aussi que tu sais, il vit presque dans le bar. Tu sais, il y a peu d'employés. Il y a la relation avec sa fille aussi qui vient lui donner un coup de main à l'occasion. Une relation un peu tumultueuse, compliquée. Il trouve un itinérant du quartier qui décide de le faire travailler dans le bar, dans la cuisine.
Bon appétit tout le
monde. Il y a des
scènes
assez...
C'est ragoûtant.
C'est un film, je crois, côté 16 ans et plus, ou 18 ans et plus. Okay. Mais effectivement, on n'écoute pas ce film-là en soupant. C'est préférable de ne pas faire ça.
Ni en déjeunant.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un super de bon film. Vraiment, on apprend vraiment beaucoup. Puis, ce qui est vraiment particulier au niveau de la réalisation, c'est que c'est le point de vue, toute l'histoire est narrée avec le point de vue du magazine qui était le fanzine Punk Magazine, qui était, la première fois que le nom punk a été vraiment accolé à ce style de musique-là, à ces nombreux groupes-là, de cette scène-là, à cette époque-là. Donc, le Punk Magazine, qui est un fanzine, donc des illustrations, des bandes dessinées.
Ça a-tu commencé, excuse de t'interrompre, mais par des photocopies? C'est vraiment comme un petit fanzine distribué à la main. Là.
C'est ça, distribué à la main. Puis, eux autres, ils ont commencé à peu près dans la même année que CBGB est apparu.
Okay.
Donc, là, eux, ils ont commencé à vendre leur fanzine
dans le bar.
C'est ça, genre 50 cents de la copie.
Okay.
Un truc en papier journal ou, comme tu dis, là, photocopié.
Si vous en avez, gardez-le. Je suis sûr que ça vaut une fortune aujourd'hui.
Oui, oui, certainement. Puis, c'est ça. Donc, c'était tous des gens de la scène de l'époque. Donc, ils fréquentaient le bar, les gens qui étaient derrière le fanzine. Puis, ils ont comme un peu aidé à publiciser tous ces groupes-là, donc le Blondie, les Ramones, Iggy Pop. Qui était au CBGB, puis il se retrouvait dans le fanzine. Puis dans le film, c'est qu'au niveau de la réalisation et du montage, le réalisateur a comme décidé de raconter l'histoire un peu à travers le fanzine. Donc, comme si on voit apparaître dans les transitions de scène des cases de bande dessinée, des illustrations à l'occasion aussi du fanzine. Donc, c'est vraiment un beau clin d'œil. Puis c'est super intéressant, c'est vraiment instructif, puis c'est quand même... très bien fait. Le comédien qui joue le personnage principal, c'est Alan Rickman.
Who's that guy?
Qu'on a vu dans de nombreux films. Alan Rickman, il a joué dans Die Hard 1. C'est lui qui faisait le méchant.
Ah, ben moi, je m'en rappelle.
Puis j'ai oublié c'est quoi son nom.
Okay.
Fritz, c'est ça? C'est un monsieur allemand. Super cliché.
Okay.
Dans Harry Potter aussi, qui faisait le professeur méchant, que j'ai aussi oublié le nom. Donc, le film est réalisé par Randall Miller. C'est sorti en 2013. Je l'ai vu sur...
Ah oui, quand même. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça. Oui. Puis même, je pensais que c'était un documentaire au début quand tu m'en as parlé. Mais OK, ça fait que c'est OK,
ouais.
2013. OK.
C'est sorti en 2013. Je l'ai vu sur Amazon Prime, mais c'est sûrement disponible dans d'autres plateformes et d'autres médias. Et juste une anecdote, juste un fait intéressant, c'est que sur 33 ans le bar, il y a 50 000 bands qui ont joué.
Hein?
Sur la scène du CBGB.
My God.
Et une autre anecdote intéressante.
Ramones, là, combien de fois qu'ils jouaient?
Les Ramones, en 1974, qui était la première année d'ouverture du bar, ils ont joué 75 fois au CBGB.
My God.
T'imagines le nombre. Si t'étais chanceux, si t'as vécu là-bas dans ces années-là.
C'est sûr, t'es vu au moins deux,
trois fois.
T'as
vu les Ramones plusieurs fois.
Oh my God.
Exactement. Donc, c'est super intéressant. On voit tous les déboires, surtout le déboire financier. Vraiment, parce que ce monsieur-là...
Côté finance, il était zéro.
Il était vraiment pas très doué pour les finances.
Il n'était pas solvable.
Non, vraiment pas.
Okay.
Puis donc, ça explique bien vraiment toutes ces péripéties-là au début, avec tout l'entourage aussi. Il y a même des moteurs impliqués dans tout ça. Bref, vraiment, vraiment intéressant.
Ah ben je vais écouter ça avec grand intérêt parce que c'est la salle mythique par excellence du mouvement punk américain. C'est vrai, toutes les bandes sont passées par là.
Toutes les bandes sont passées par là.
Et je pense une des premières qui a joué là, c'était Patti Smith.
C'est vrai.
Et c'est-tu elle qui a terminé, qui a fait un closure de...
Oui, exactement. En 2000, je crois, là, de mémoire, c'était en 2005, okay. Peut-être 2006, là, que c'était l'année de fermeture du bar. Donc,
ouais.
Patti Smith, elle avait, donc il y avait eu plusieurs groupes qui ont joué, mais Patti Smith, je pense, c'est la dernière personne à avoir performé, exactement.
Et on sait-tu pourquoi qu'il a fermé, pourquoi qu'il n'y a pas personne qui a racheté ça? Il me semble qu'il devait avoir du cash à faire avec ça. Juste le merch de chandail, de casquette que tout monsieur, madame, tout le monde a.
Bien, ce que j'ai lu, bon, ça reste Wikipédia, là. J'ai pas fait une recherche exhaustive.
T'as pas appelé Billy.
Ce que j'ai lu, c'est que, il était assez âgé, le monsieur. Il commençait à plus être jeune. Puis, il était aussi en conflit avec les propriétaires par rapport au loyer. Ils ont décidé de ne pas renouveler le bail. Puis, il y avait comme un conflit légal.
Okay.
C'est plate de même, là, mais il y avait comme vraiment une situation avec les propriétaires. Puis, il a décidé de fermer le bar, puisque bon, ça faisait déjà 33 ans qu'il était en service.
Qui est quand même une bonne moyenne pour ce genre de clientèle-là, crowd-là. D'avoir des shows payants, d'en avoir qui étaient un peu moins payants. Puis tu sais, moi j'avais été à Las Vegas et j'avais entendu qu'il y avait une rumeur qui était supposée de faire comme une chaîne de CBGB à travers les États-Unis, un peu comme les Hard Rock Café ou tu sais, name it. Puis je ne l'ai pas vu, mais je sais pas si... Il me semble que j'ai vu ça. Il me semble qu'il y avait comme il y avait eu cette idée-là.
Une idée.
Ouais? Ah oui,
c'est ça. Ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, il y avait une proposition de faire un deux après la fermeture de celui de New York, ouvrir un autre à Las Vegas, mais que finalement, il a refusé.
Ah, OK.
Donc, il n'a pas voulu faire ça. Puis lui, Haley Crystal, le fondateur, lui, il est mort peu de temps après aussi. Là.
OK.
Donc, le bar a peut-être fermé, disons, en 2005. Là. Ça se peut que je me trompe. Puis lui, il est mort deux ans plus tard, en 2007.
Ah, OK.
Il avait un cancer. Donc, il a vraiment tout donné.
Ouais.
Puis ça, on le voit bien dans le film, à quel point il était généreux aussi.
Il donnait des drinks.
Il laissait le monde entrer. C'est ça.
C'est sa guest list.
Il voulait vraiment faire en sorte que quelque chose se passe. Quitte à perdre de l'argent, il comptait pas son argent. En fait, c'est
pour que la communauté se crée.
C'est ça.
Okay.
Il a vraiment créé une scène. Un peu par accident, mais il a quand même été opportuniste. Puis il a eu le flair de dire il y a quelque chose qui se passe. Même si lui, il n'était pas un musicien punk.
Ouais.
Mais il a eu l'opportunité d'avoir un local disponible à ce moment-là. Puis que tous les musiciens, toutes les bandes ont passé par là. Puis il a encouragé ça. On le voit dans le film aussi qu'à un moment donné, il veut prendre sous son aile. Le groupe Dead Boys.
Oui, oui, oui.
Il décide d'être leur gérant pendant un certain temps. Bref, il croyait à ça quand même. Là,
fait qu'il ne s'est pas mis riche avec ça, mais c'est vraiment pour l'amour de la musique puis de créer une scène locale, musicale, new-yorkaise.
Exactement.
Et presque américaine et internationale.
Ouais.
Et même des Français, le groupe Les Satellites avait été joué au CBGB, un groupe français.
Ah ouais?
Il y a bien du monde qui sont passés par là, qu'on ne s'attendrait pas à leur passage. Et là, vu que le CBGB, c'est comme un peu l'enfer, on va se diriger dans la musique. Vous allez voir, vous allez être surpris, c'est l'enfer, mais c'est pas l'enfer que vous croyez être.
C'est de la musique de l'enfer?
Prêt? Ben oui.
Seen all day, but tomorrow they'll be held to pay. The people listen attentively. I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man stamp on his feet. Eternally, fire is applied to their body. Teeth are extruded and bones are ground and baked into cakes which are passed around.
In the afterlife, you could be headed for the serious life. Now you make the scene all day, but tomorrow will be
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de 90,3 FM. C'est KUT. Sur les ondes de CKUT, c'est ça que je voulais dire.
90,3 FM.
On vient d'écouter une pièce des Squirrel Nut Zippers et c'était la chanson Hell.
Yes.
Qui est sortie en 1996.
Hey, ça fait un bout. C'était comme on parlait, c'est le revival des big bands, du swing. Ça n'a rien à voir avec l'alternatif. Un petit côté aussi Django Reinhardt, tout ça. Mais cette tune-là, quand elle est sortie, wow! Puis cet album-là, Double Wow, l'album s'écoute bien au complet. Je l'ai écouté hier au complet pour préparer l'émission. Puis je trouvais ça, aïe, c'est tellement bon. Là. Ouais. Ça te met dans une autre ambiance totale.
Puis à savoir pourquoi il y a eu un revival du swing dans les années 90 avec d'autres groupes.
Bonne question. Brian Setzer Orchestra qui roulait, qui roule encore fort. Il y avait les Cherry Daddy Poppin.
Cherry Poppin Daddies?
Oui, une affaire dans
quelque chose comme ça.
Il y avait les Zoot Suit Riot, je pense aussi. Ou, en tout cas, ouais, il y avait une couple de groupes, c'était bien à la mode. Comme les Stray Cat, les années 80, ils avaient remis le rock and roll et le rockabilly sur la map. Fait que ça, c'est cette vague-là, mais ça s'écoute encore bien aujourd'hui, ça a très bien vieilli. Et c'était la pièce Hell.
L'enfer
et l'inferno. En parlant d'inferno, j'ai fait un enfer à mon entourage en leur proposant d'écouter un film que j'avais vu quand j'étais jeune, en espérant porter le flambeau à la prochaine génération, mais ça s'est avéré un enfer. Et là, si tu te souviens du guide DVD, là, je sors un guide des Boulamites, c'est une bible. C'est le guide DVD 2011. Ça, c'était créé par...
La Boîte Noire,
le vidéo sur Mont-Royal, et FIDS et Mediafilm. Et là, c'était la 15e édition du guide DVD. Et là, moi, j'avais regardé dans la lettre L, c'était en ordre alphabétique comme un dictionnaire, anglais, 1985, conte de Ridley Scott avec Tom Cruise, Mia Sara et Tim Curry. Un jeune garçon et une bande de lutins volent au secours d'une princesse enlevée par le prince des ténèbres.
J'ai jamais vu ce film-là. Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle Legend.
OK.
Et c'est mauvais. Mes souvenirs étaient faux.
C'est réalisé par Ridley Scott.
Oui.
Je ne connaissais pas ce film-là.
Ridley Scott, on le sait, c'est Monsieur Alien, Monsieur Blade Runner. C'est un très grand réalisateur de films de science-fiction. Il l'est toujours. Mais pour faire un film de conte fantasy, tu sais, du fantaisiste, là, ça ne marche pas. Moi, j'étais resté accroché à cause du diable, du prince des ténèbres, qui est en rouge, qui a des cornes. Comme on imagine le diable, il est vraiment, vraiment imposant. Et il y avait même des figurines dans le temps là, que celui qui dessinait Spider-Man, McFarlane, faisait ses spawns puis des Spider-Man plus gros que nature, musclés. Il y avait vraiment un revival, c'est le thème de l'émission, des jouets pour collectionneurs, pour adultes. Et cette poupée-là, ce jouet-là, était hallucinant. Et là, Tom Cruise, dans ce film... Je vais déplaire à beaucoup de personnes. Je ne comprends pas, après avoir vu ce film, comment il a eu une carrière aussi longue. Il y a une scène où est-ce qu'il crie. C'est abominable.
Okay.
Même des jeunes enfants de 13 ans n'embarquent pas dans cette histoire de magique et tout ça. Parce que c'est un ramassis de contes pour enfants. Tu sais, il y a un petit côté la fée Clochette, des elfes, des licornes. Tout ça, il y a deux licornes, puis le prince des ténèbres, il envoie ses lutins, ses dwarves, aller voler une des unicorns, la corne. C'est supposément qu'il y a des pouvoirs magiques et tout ça, de virilité, j'imagine. Mais c'est ça, c'est mauvais.
C'était coté combien dans le...
C'est ça qui fait peur, puis c'est ça qu'on a lu après, c'est un 4.
Côté 4 qui est bon, me semble.
4, oui, c'est bon. Mais
1 étant chef-d'œuvre, 7 étant horrible.
Exact. Minable. 7, c'est minable. Moi, je l'aurais mis 6, médiocre.
Oh, ouais.
Oh, je vais me faire des ennemis.
Oh.
Mais Honnêtement, le acting est assez mauvais. Les seules bonnes choses, c'est qu'il n'y a pas de décor en CGI. C'est qu'il avait construit un plateau de tournage plus grand que nature, ce qu'on appelle un set, et il avait créé une forêt.
Okay.
Une forêt qui a l'air vraiment d'une vraie forêt. Tom Cruise saute d'une pierre à une autre, mais tout ça, même si ça a l'air très réaliste, ça a été construit dans un studio. Et il paraît que dans le tournage, cette forêt-là, c'était pas voulu, elle a brûlé.
Oh mon Dieu!
En enfer. J'espère. J'aurais aimé ça que la pellicule brûle avec, mais.
C'est un peu dans les mêmes années de Labyrinthe, peut-être?
Oui, oui, mais Labyrinthe, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Labyrinthe, ça va.
Ben, c'est peut-être un peu. Tu sais, Hollywood, comment il fonctionne souvent?
Ouais, c'est par, par.
Ça se copie entre
par
studios.
Par mode, là, ouais.
Puis aussi, une histoire sans fin, peut-être.
Oui. Mais ça, c'était déjà plus cool. Mais
ouais,
ça,
ouais, ouais.
Il y avait un côté plus mopette, là. Même ça, il y a un petit côté mopette show, là, tu sais, des marionnettes de Jim Henson, mais.
C'est moins réussi.
C'est, ouais, mais, tu sais, c'est un. OK, j'en dis pas plus. Déjà, ouais. J'en ai dit trop de mal, mais ma blonde, elle voulait voir Tom Cruise, qui était jeune, là, c'est dans ses premiers films. Il est beau, là. Tom Cruise est beau, mais il est pas très bon. Il est pas très convaincant en espèce de prince pour combattre le mal.
C'était Legend,
Legend
de Ridley Scott.
À ne pas voir, à part si vous voulez une image d'un diable vraiment inégalé. Le diable, il est encore super bien fait. Il est sur la coche. Et mais par contre, par exemple, il y a la musique de Jerry Goldsmith que je ne connaissais pas et d'un groupe qui s'appelle Tangerine Dream. Tangerine Dream, il y avait un petit côté prog, un petit peu tout ça. Mais Tangerine Dream, c'est pas le nom d'un. Pas le nom d'une actrice québécoise.
Oui, de film pour adultes.
Oui, Olé Olé, oui, ok, c'est ça.
On est trop tôt pour parler de ça, Marc.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. En passant, le guide que j'ai dans les mains, c'est la séduisante Jane Fonda, qui est en habit legging psychotronique, juste pour la pochette du guide DVD 2011. Allez voir ça sur Internet. Moi, je trouve ça merveilleux.
Ben, ces guides DVD-là, je m'en souviens, j'en avais quelques-uns aussi à l'époque. Ouais. C'était vraiment pratique parce que c'était avant Internet.
Ouais. Même avant la toile du Québec, je pense.
Aujourd'hui, c'est facile avec IMDB ou même juste Wikipédia.
Ouais, ouais, ouais.
On a toutes les réponses.
Movie, ouais, c'est ça.
Puis avant, c'était ça. C'était ces briques-là du guide de DVD de la boîte noire. Puis c'était le fun parce que c'est classé par titre de film, mais aussi c'est classé par
réalisateur et des fois par pays, je pense, ou par style aussi.
Ouais.
Il y a une couple de. Puis il y a tout le temps qu'est-ce qu'il y a eu l'année précédente, là, les gros films à voir absolument pour tout cinéphile qui se dit cinéphile, justement.
Donc même si on ne voulait pas voir tous les films, mais c'était le fun de voir toute la filmographie des réalisateurs. Puis après, bien évidemment, c'est ça, tu avais un petit résumé avec une cote pour savoir si c'était bon ou pas bon.
Exactement. Mais celle-là, ils l'ont mal coté, je peux te okay. garantir. Perds pas
mais
ton
ils révisent. J'ai su récemment qu'après 20 ans, Mediafilm, qui font ces cotes-là de 1 à 7,
ouais.
après 20 ans, les films cotés 1 ou 2
sont réévalués.
Des fois, ça ne change absolument rien.
Ouais.
Il reste des 1 ou des 2.
Ouais.
Mais des fois, les 2 peuvent devenir des 1. T'sais, des films qui étaient très bons peuvent devenir des chefs-d'œuvre, genre 20 ans plus tard. T'sais.
OK. Mais là, ça me fait penser à quoi que j'ai vu dernièrement. Le film qui avait joué juste ces plateformes, je pense que c'est sur Netflix, The Irishman, qui est basé sur un livre,
ouais.
qui a été produit, réalisé par Martin Scorsese ou Martin Scorsese, dépendant, avec Robert De Niro, Joe Pesci. Ils l'ont sorti en DVD ou en Blu-ray, et c'est déjà un Criterion.
Wow!
Fait que je trouve ça quand même un peu spécial.
Ouais.
Il y a un coup. Mais ça, il faut que ça passe le temps, il faut que ça fasse ses preuves. Je ne dis pas que le film est mauvais, il est bon, mais je veux dire, il vient de sortir, OK, on sort en Criterion. T'sais, moi, je me rappelle des Criterions, c'est comme, tu sais, La Haine, ça en est un. C'est intemporel, il a bien vieilli,
c'est classique.
Il s'écoute bien encore, c'est
ouais.
ça. Mais là, Irishman, il me semble, il n'a pas fait ses
un
preuves.
Un peu récent.
Ouais. Martin Scorsese, il y a peut-être des plugs avec ceux qui...
Sûrement.
Sûrement. Il ouais. dit, sors-moi là en Criterion, moi, je ne sors pas ça dans les clubs vidéo.
Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est sûr qu'il y a une passe-passe avec. Mais en même temps, Martin Scorsese, on peut pas lui en vouloir d'avoir sorti un film sur Criterion.
Non, pas du tout.
C'est quand même le fun parce que souvent, ça vient avec des bonus intéressants, des documentaires.
Exact. Oh, il met le paquet,
plus,
c'est
ouais,
sûr.
C'est ça.
Mais...
Ouais.
Anyway, on s'en va en musique avec quelqu'un qui a gagné un prix dernièrement et qui le mérite.
Ouvert la lumière, me suis dit, hostie, je suis pas mal pris. Mais check-moi ça, c'est qui est dans le lit. C'est pas créable, capable de m'endurer. Puis il y a de la réciprocité par-dessus le marché. J'ai ouvert mon force, me suis dit, ben qu'un hostie que je suis ben. Seul dans le coin, pas de voisin. Je vois aux yeux dans le pont, d'oeil, un campagnoir, pas en bobette. Si c'est pas ça qui fait meilleures omelettes. J'ai ouvert mon frigidaire, me suis dit, sérieux, hostie que je suis chieux. J'ai bien de la bouffe pour un an ou deux. Je mourrais pas de faim, c'est bien certain. J'ai fait de boucherie, congélateur sont pleins. J'ai le pâte doré, la marde au cul béni. Les étoiles alignées, gâtées pourries. Je remercierai le bon Dieu, je me garde un peu de mérite. Je quand même pas saine, j'ai pas hérité de l'élite. J'sens mon gun d'épaule ouvert au fond. Si je rapporte plus de tôle, y'aura bien d'autres façons pour amener du beurre pis du pain maison. Gentleman farmer semble la meilleure option. J'ai ouvert ma barrière, me suis dit, 5 rennes, tout un land. La belle ouvrage qui rapporte pas une scène, mais le fruit de mes labeurs, le fruit de la graine que je sème. Le concept est plus palpable qu'une paye aux deux semaines. Ouvert mon enclos, me suis dit, saute que les animaux sont gras. Elle vaut, y'a plus de dard, y'a plus de foie. Avec la vieille huile à moteur, je l'ai guéri de la dingue. Il est revenu flambant à nu, grosse à l'huile tout bain. J'ai ouvert la dépense, me suis dit, shit, on a tout le kit pour être survivant, post-apocalyptique. Du canard, l'autoclave, pas de botulisme en vue. Mais du lacto-fermenté, on pognera pas le scorbut. J'ai le pâte doré, la marde au cul béni. Les étoiles alignées, gâtées pourries. Je remercierai le bon Dieu, je me garde un peu de mérite. J'suis quand même pas saine, j'ai pas hérité de l'élite. J'suis un gun d'épaule ouvert au fond. J'apporte punto le robin d'autre façon. Pour amener du beurre pis du pain maison. Gentleman farmer semble la meilleure option. De toute façon, j'en ai mort du quatrième or, c'est pas la manne, manne mort du quatrième or, c'est pas la manne, j'en ai mort du quatrième or, mort la poussière, oh les chaussées, mort, y'a plus rien qui se passe, comme un virus louche de l'espoir qui fait manger mes bas, frette pas d'extra, si tout est formé, me recycle en fermier, revire d'abord j'ai la place, polyvalent, rare, corde à vache à mon âge, je défriche mon laine, me fait pousser de la laine, sous le dos mes alpagas, gomme, oui, ça si c'est beau, me ferait plus manger le merino dessus le dos, mais moi, manger du veau, du sauce, je veux pas faire de chaud. Ma pogne pas le pain, je fais le train chaque matin. Quand t'as de veille au grain en attendant que ça passe. Que les choses s'attendent, mon petit virus louche de l'espace. Petit virus louche de l'espace, le PCU, vacances forcées. Je fais pas tant de changement des années de PC. J'suis autant mêlé, j'suis autant décrit. Tu es colissé qu'un statut d'artiste. Ça m'a viré les légumes, on a défriché les chambres. Je l'assume, fini le bon temps, mais j'suis pas dans ma mère. Ça sent l'étable, j'inspire pas de la vache. Et que ça sache, me laver, m'apprêter toutes mes trains. Ça reste à la base, la première fois, c'est le même qu'on cause. Petit virus louche de l'espace. Petit virus louche de l'espace. J'ai pas doré la marde au cul béni. Les étoiles alignées, gâtées pourries. Je remercierai le bon Dieu, je me garde un peu de mérite. Je suis quand même pas sain, j'ai pas hérité de l'élite. Je suis en mon gun d'épaule ouvert au fond. Si je rapporte une tôle, y'aura bien d'autre façon. Pour amener du beurre pis du pain maison. J'ai de la main de forme, ça me la meilleure option. J'ai de la main de forme, ça me la meilleure option. La bonne femme est la meilleure option. J'ai la bonne femme est la meilleure option.
C'est qu'en lutter les vibrations de la communauté. C'est qu'en lutter FM 90.3.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avant la pause, c'était une pièce musicale de JP Lepad
Tremblay.
Avec la pièce Gentleman Farmer.
Moi, je suis le farmer, toi, t'es le gentleman.
N'importe quand.
All right.
C'était, je pense que c'est son premier album.
Oui, c'est son premier album solo. C'est le leader du groupe QRBP, les Québec Redneck Bluegrass Project.
Mm-hmm. On aime les acronymes. Et cet album, qui a un nom imprononçable, mais que
vas-y,
je vais tenter de prononcer à la radio, là, donnez-moi une chance, là, parce que c'est pas un mot. Hein.
Bon déjeuner tout
c'est
le monde.
Un bruit. Donc, c'est... Donc là, j'ai comme un peu craché volontairement, parce que c'est ça le nom de l'album. C'est un onomatopée d'un crachat.
Exactement.
Donc, l'album s'appelle...
Tiens-toi, dans l'œil.
Donc, excuse-moi, Marc-André, j'ai un peu de salive sur ton front. Mais je JP, le pas de Tremblay, ben oui, excellente suggestion musicale.
Qui a gagné à la GAMIC pour album trad, ou en tout cas une catégorie... Il a gagné dans une catégorie un Lucien. Et c'est réalisé par Marc Derry, Zibulon qui a repris du collier, qui refont des spectacles ou qui vont faire des spectacles dépendant de les dates et tout ça, et qui accompagne notre monsieur Lepade Tremblay à la basse sur cet album-là.
OK, intéressant.
Très bon album.
Zibulon sont de retour?
Oui, Zibulon sont de retour. La formation originale, moi, je les avais vus dans le temps du cégep, un show à l'heure du midi. Puis il m'avait vraiment impressionné. Autant que ça. Il y avait des tunes comme Les femmes préfèrent les
Gino, ben oui, le grand classique.
Leur hit commercial qui jouait à la radio, mais ils ont un bon répertoire, tu sais, digne d'adrénaline, la tune sur l'alcool au volant, tout ça. Tu sais, il y a un côté rock and roll.
Ben oui.
Côté aussi piano B3, un peu Deep Purple. Là.
Ah oui, ben oh, je me souviens que sur ça scène, va. C'était des bons shows aussi.
Oh, oui, c'est des très bons musiciens. Toute la gang, ils ont toutes des belles voix aussi.
Oui, c'est vrai.
Ils s'accompagnent. Je pense que c'est des trippers de Beatles. Fait que les harmonies vocales, c'était leur fort, définitivement.
Oui, oui, oui.
Fait que...
On change de sujet.
Ah ouais.
On s'en va vers la bande dessinée, toi?
Oui, mais là, vu, je me sens mal là, d'avoir, tu sais, on n'est pas là des critiques de cinéma puis tout ça, mais tu sais, je voulais vous présenter mon calvaire cinématographique, mais je vais vous en conseiller un vite, parce que ça vaut la peine. Ça s'appelle Cry Macho, un film qui vient tout juste de sortir de Clint Eastwood, qui est devant et derrière la caméra à 91 ans.
Ben ça, c'est son dernier film, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Tout dernier qui est sorti en 2021.
21, je pense, oui. Puis, je vous le conseille. Je ne raconte pas d'histoire, rien. Mais ça vaut la peine d'être vu. Ça sort des films hollywoodiens. C'est du grand Clint Eastwood.
OK.
Je suis un fan fini. Et encore là, tu sais... Tu t'attends tout le temps, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, tout ça. Il est tout le temps où est-ce qu'on ne l'attend pas. Puis c'est un bon film.
OK.
Ouais, Cry Macho.
Cry Macho, oui. J'avais entendu parler.
Ouais,
j'ai entendu parler un peu en mal, mais bon, je ne l'avais pas vu non plus.
Ben, tu sais, là, faut remettre. C'est parce que le monde s'attend à. Tu sais, que tous les films soient comment ça s'appelle, là, toutes les séries de killers là, qui sortent. Premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de films de violence qui sortent en ce moment.
Oui.
On dirait que c'est juste ça. Puis il y a des vieux films. J'ai revu des films pas revampés, mais des nouvelles copies de, admettons, de Basket Case. Des films de série Z, B, que, OK, quand tu les as vus une fois, c'est correct, mais ils ressortent ça là, comme si c'était des nouveautés. C'est ça, tu sais, tu vois, c'est sur certaines plateformes, certains magasins, puis tu te regardes des nouveautés, puis man, j'ai déjà vu ça, c'est vieux, tu sais, c'est... C'est comme du réchauffé, du
recyclé. Ben ouais. Ouais. Faut dire qu'Hollywood, depuis un certain nombre d'années, c'est pas mal juste ça. Là. C'est du recyclage et des sequels, des suites et des prequels et tout ce que tu veux.
Ouais.
Il n'y a plus tant de scénarios originaux aujourd'hui.
Non, c'est du remâché. Mais là, ce que j'ai entre les mains, hein, comme tu disais, on changeait. Je ferme la parenthèse, je rouvre ma parenthèse favorite, qui est la bande dessinée. Et là, deux auteurs... incontournable de la bande dessinée. J'en ai parlé maintes et maintes fois et je continue. Je suis comme un 10 rayé. Je saute. Charles Byrne, Last Look.
OK, oui. Charles Burns, ouais. Qu'on a déjà parlé à l'émission, qui est, je le rappelle,
ouais.
Semblerait à l'origine du personnage de Mr. Burns dans Les Simpsons.
For sure.
Parce que lui, Charles Burns, avait côtoyé Matt Groening,
créateur des Simpsons.
Et semblerait qu'il y a un peu le même physique que Mr. Burns.
Oui, mais il est plus sympathique. Et sur le dessin, il est dur à battre. Et là, ce que j'ai entre les mains, c'est la version anglophone originale. C'est encore plus intéressant. Je l'avais lu en français. Elle avait été séparée en 3 tomes. Et la lire en anglais est un must. Honnêtement, okay. Là, ouais. Il y a moins de blabla, c'est moins de traduit français de France. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça. Il y a des expressions dans le livre en français que j'avais lu, c'était plate. En anglais, ça se lit mieux. Dans le fond, c'est le recueil de... Là, c'est très dur à dire. C'est « The X-Head Out ». Trilogy, qui est remis dans une nouvelle collection en un seul volume. Fait que c'est 3 petites bandes dessinées remis. Et là, je ne parlerai pas trop de l'histoire. C'est très intriguant, c'est très space, c'est très David Lynch-ish. David Lynch, là, ouais. Vous comprenez l'espèce d'adjectif que j'invente.
Surréaliste, un peu.
Surréaliste, symbolique, bizarre, weird. Mais il y a 2 affaires qui sont vraiment importantes qui vont faire un lien avec l'autre bande dessinée. C'est un gars aussi qui tombe, qui a un accident et qui tombe amnésique. Et là, on ne sait pas s'il délire, s'il rêve. Faut qu'il prenne des médicaments. Il soumet haute médicamentation. J'ai beaucoup de difficultés.
Haute médication.
Merci, monsieur. Et là, il y a des flashbacks et tout ça. Et lui, ce jeune homme-là, a fait de la performance. Fait qu'il va dans des salles de spectacle comme le CBG, ça peut être le CBGB, les Foufounes électriques, le name it. Et là, il se déguise dans son alter ego. Son alter ego, il s'est même créé un T-shirt et c'est une silhouette noire. Je te montre la silhouette. Oui. À quoi ça te fait penser?
Ben, c'est vraiment le visage, la tête de Tintin.
Exactement.
Avec les petites toupettes puis le nez rond.
Exactement. À la seule différence qu'il y a une boucle d'oreille et c'est une épingle à couche de bébé.
Oui, OK.
Et qui, ça, on le sait, ça représente un peu le mouvement punk, le petit côté alternatif, tout ça. Et là, le personnage, ça, c'est son alter ego, mais même lui, sa coupe de cheveux, il est rasé sur les côtés et il y a un petit peu une espèce de mohawk dont le coq, le début de la couette est dans les airs. Même s'il n'y a pas les cheveux blonds comme notre Tintin d'Hergé, mais il y a un gros clin d'œil. Et là, il y a un autre clin d'œil que moi je vais faire qui va nous emmener à l'autre bande dessinée, c'est que les deux dessinateurs que je vais vous parler, trippent tous les deux sur Hergé. Okay. Là, on a un Américain. On se dit, pourquoi que Charles Byrne, qui habite aux États-Unis, trippe sur Tintin? C'est sûr qu'Hergé a une très grande influence, mais... Et là, il y a une obsession. Fait que là, on a l'alter ego, comme je dis, qui ressemble à Tintin. Il y a des champignons blancs et rouges à l'intérieur de la bande dessinée. Et
comme
ça,
dans
c'est...
L'île mystérieuse?
Pas l'île, c'est l'étoile mystérieuse.
L'étoile mystérieuse, oui.
Exact, exact. Là, tiens, je te remonte à l'instant, regarde. Il y a plein de
des gros champignons blancs et rouges.
Et rouges. Sont-ils hallucinogènes? On ne le sait pas. Fait que ça, c'est sur Last Look, Charles Byrne. Je vous en dis pas plus, mais il y a un gros, gros clin d'œil à Hergé qui semble être une grande influence de ce dessinateur-là, très mystérieux, très dur à décrire aussi, mais c'est un trip visuel incroyable.
C'est 3 BD en une, mais c'est quand même une histoire qui se suit.
Qui se suit, et c'est toujours le même personnage principal.
Okay.
Et essayez pas de comprendre, essayez pas de dire, il y a un début, un milieu, une fin. Il nous emmène, c'est une aventure, il faut se laisser aller dans l'univers de la 4e dimension de Charles Byrne, The Last Look.
OK.
Et là, j'ai entre les mains une bande dessinée de R.E.G., et de Valium. Ça s'appelle Nit Nit et le mystère du lame d'arose.
OK.
Nit Nit, c'est Tintin.
À l'envers.
Exactement.
OK.
Et là, on a un Valium qui s'est amusé avec Tintin. C'est pas la première fois. Ça sera.
C'est pas RG, c'est REG. C'est
REG.
REG.
Oui.
OK.
C'est pas le père de Tintin. Et là, Tintin et Milou sont de dos. Tintin s'appelle Nit Nit. Et là, Milou, là, on rouvre la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on voit? Comme dans les Tintins, c'est blanc et bleu et c'est un portrait de tous les personnages qu'on côtoie dans l'univers de Tintin. Mais là, c'est tous les personnages dans l'univers de Nit Nit. Et Nit Nit, il y a des choses, je pense, je pourrais même pas dire à la radio. C'est... Fait que là, il est marqué « Les personnages des albums d'Hergé décalissés par Valium. »
Oh, pelage.
Je vais essayer de garder mon t'sais, d'être objectif, genre beaucoup de difficultés. Fait que là, il dit quelques Belges, parce qu'on sait que Tintin, c'est un Belge. Fait que là, t'as Nit-Nit, t'as Moulin, t'as Commodore Kodak, qui est Capitaine Haddock. Moulin, excusez, c'était Milou. T'as Trifon Fourlapiof. Trifon Fourlapiof, qui est le professeur de Tournesol.
Okay.
T'as les frères Pondu, qui est les frères Dupont et Dupont. T'as la Castafolle, qui est la Castafiore. T'as le manoir Boudingras, qui est le manoir Moulinsard. De Moulinsard. Puis là, t'as d'autres personnages, dont Pasta au poulet, qui est...
Rasta Papoulos.
Oui, exactement. Ouais, c'est je vois beaucoup, beaucoup.
Donc, c'est vraiment une parodie de Tintin.
Oui, c'est hallucinant comment qu'il déforme les codes de Tintin. Et là, même dans le dessin, c'est Valium.
Ça ressemble beaucoup à Tintin. Là.
Oui, oui, c'est Patrick Henley, alias Valium, qui les dessine. Mais en plus de ça, les backgrounds, ils s'occupent pas des dessinés. Il a comme scanné, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a repris des images de Tintin et il les a comme juxtaposées. Il les a, tu sais, il les a pas photoshoppé, là, mais c'est presque ça. C'est un assemblage d'images d'un peu partout. Puis là, lui, il redessine par-dessus ou à côté. Il rajoute des détails. Il y a tellement de détails, ça en est hallucinant. Tu lis une première fois, puis après ça, tu fais juste regarder des images. Fait que quand on dit que les jeunes regardent juste les images dans une bande dessinée, t'en as longtemps. Et les phylactères, là, tu vois, il y a une case, là, le trois quarts de la case, c'est du texte, et le reste, c'est un petit dessin.
Ouais.
Et là, je vais juste vous en lire un extrait, ça vaut la peine. Fait que là, dans l'Étoile du Sud, c'est le journal du coin. Fait que là, Réseau international des criminels qui était démantelé par Nit-Nit. Mais là, il y a Dick Focal retrouvé. Dans les caves du Deep Stud Inn, Dick Focal était nu, couché et très lié à un mineur latino, Humilio Hernandez. Et là, on a une image d'un criminel. C'est H. Valium en procès par Casterman pour plagiat intégral. Et moi, en lisant la bande dessinée, c'était ça que je me demandais. Je me dis, comment ça qu'il ne s'est pas fait actionner? Parce qu'on sait que Casterman a le bras long.
Okay.
Et tu ne touches pas aux droits de Tintin et d'Hergé. C'est mieux gardé que bien des autres droits de d'autres artistes.
Okay.
À ce point. Et il y a moi, j'ai des bandes dessinées qui viennent de la Thaïlande. C'est des aventures sexuelles de Tintin. Et même ça, tu les ramènes sous la couverte. C'est très, très mal vu si tu te fais pogner. Si l'auteur qui a plagié Hergé se fait pogner, il est dans le chenoute.
Okay.
Mais Valium, lui, il s'est toujours foutu de la gueule de Tintin. Il l'aime, là, mais il l'a distorsionné à des endroits que les enfants... Fait que ça, c'est pas pour les 7 à 77 ans.
C'est ça.
C'est pour les 18 ans à, je dirais, 50 ans. Parce qu'après ça, là, le monde va capoter. Là, ils vont trouver ça trop hardcore.
C'est un peu provocateur. C'est ça.
Ouais, c'est provocateur même hardcore. Là.
Hardcore.
Ouais, ouais.
OK, on va loin.
Et là, je veux que tu me lises à Lando. C'est le classique Tintin. On a toutes les aventures de Nit-Nit et Moulin. Et je te laisse le lire, tu vas t'amuser.
Donc, à Lando, où est-ce qu'habituellement, on énumère les autres volumes?
Les albums, ouais.
Les autres albums de Tintin. Donc, les aventures de Nit-Nit et Moulin. Donc, Nit-Nit en Colombie. Le Anus Bleu. À l'ordre du Temple solaire. Objectif pur à rien. OK. On a marché sur le Zaïre, le mystère du bâton mou, le sphincter Mobutu, les sept cubes de métal, le testament d'Hermann, destination Monrovia, la vallée des nègres blancs, attention, l'érection du professeur, Idi Amin ne répond plus, Nit-Nit prend la poudre d'Escobar, l'affaire tourne au viol, l'enlèvement du père Kadhafif, au pays de l'Arabe mort, vol 666 pour Jonestown, Nit-Nit et Moulin sur le web, la pipe du Commodore, chant patriotique breton, et le dernier, Nit-Nit à Nuremberg. Donc, on n'est vraiment pas dans le politically correct.
Non.
Au diable, les conventions sociales, c'est très provocant. Donc, ouais, Valium. Et Valium, dans le fond, c'est, il a fait ça lui-même, il a pas fait ça avec quelqu'un d'autre.
Là. Non, je pense
c'est
pas.
C'est tout Valium.
C'est tout du Valium.
Vraiment bien fait, en tout cas.
Oui, ça a l'air vraiment d'un album de Tintin.
De loin, là, ouais.
Et il y a même le prix à l'endo qui est 6,66. Fait que je sais pas si c'est 666, Satan, la bête, le diable, mais il y a un faux autocollant, là, comme si tu achetais un vieil album de Tintin. C'est à s'y méprendre. Et ça a été tiré, cet ouvrage a été tiré à 200 exemplaires. Il était sorti, il était imprimé à Montréal, au Québec, en mai 2019.
OK, wow!
Oui.
Puis Valium, on en a parlé il y a quelques semaines de ça,
oui.
Qui est un dessinateur BDS montréalais,
oui.
Qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois, en 2021?
21, oui.
OK. Oui. Et qu'il était connu pour avoir fait plusieurs... fanzine d'ici, dans le fond, vraiment plus underground.
Exact, mais qui était connu à l'international. Et c'est pour ça que je suis en train de me demander s'il n'y a pas... tu sais, Charles Burns devait le connaître parce que il y a trop de... en tout cas, les deux ont un amour inconditionnel pour Tintin, même s'il le parodie, même s'il se moque des conventions de Hergé.
Et Valium aussi,
ouais.
Qu'on a déjà fait jouer une chanson.
Oui, je suis malade. Et là, le temps file. OK, my God.
Il reste un petit 6-7 minutes.
Bon, on va y aller en musique. Puis si on a du temps, ben on va vous jaser ça. Et on le va avec Operation Ivy Sound System.
Écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3. C'était une pièce de Operation Ivy, grand classique du ska punk des années 80, début 80, hein, si je ne me trompe pas.
Ouais, 90, c'est sorti en 86, je crois. Et là, ça, c'est comme un amalgame. Ça s'appelle Operation Ivy et c'est l'album Lookout Records. Lookout Records qui était. Qui ont donné de la chance à bien des groupes qui sont devenus groupes, dont je m'en disais Gangrene, je ne suis pas loin, mais c'est Green Day, et dont Operation Ivy sont déçus. Là-dessus, dans le fond, c'est des release material de Energy, qui est un album, Energy, de The Hectic, qui est un 7 pouces que j'ai, et de Turn It Around, qui est un autre 7 pouces. Fait qu'ils ont tout compilé ça, puis ils ont mis ça en un album, et là, tu as Dans les mains, j'ai à peu près l'entière discographie du groupe, qui a à peu près 27 chansons, mm-hmm. à peu près de 2-3 minutes, 1 minute 45. Super, grosse influence. Quand j'ai découvert ça, c'est une bombe. C'était ouais. une bombe. Un ami m'avait fait une copie cassette de ça, puis ça a joué énormément jusqu'à temps que j'ai une copie dans les mains CD.
En CD.
Ouais.
Puis Operation Ivy, pour ceux qui ne connaissent pas, ben
ouais.
c'est l'ancêtre du groupe Rancid, je ne me trompe
Exactement.
pas.
Exactement. Tu avais Jesse aux vocals qui avait décidé que lui, il voulait pas la popularité et tout ça, qui a comme sabordé un peu le groupe. Ça, c'est la légende dit. Tu as Lind à guitare et au vocal. Lind, a.k.a. Mr. Rancid, Mr. Tim Armstrong. Tu as Matt McCall à la basse au vocal. Matt, qui est a.k.a. Matt Freeman, qui est bassiste et acolyte de Mr. Rancid depuis le début. Et tu as leur drummer Dave Mello, que lui, je ne sais pas s'il a fait d'autres choses après, mais ça okay. ressemble à ça, Operation Ivy. C'était une âme redoutable de ska punk. Tu peux pas pas danser si tu es dans un spectacle punk rock, puis il y a ça qui joue, ça vient de chercher. Là,
c'est vraiment bon. Sound
System.
Ouais.
Ouais. Hey, mais là, le temps filme.
Oui.
Combien de temps qu'il reste, mon
ami? Ben, il reste une bonne minute.
Une bonne minute. Et là, à part de après une bombe musicale et une bombe de bande dessinée, là, tu pouvais pas me laisser ma copie de Nit Nit. C'est incroyable le nombre de détails.
Ouais.
Tu sais, c'est une pastiche, mais tellement bien fait que je pense que quelqu'un, tu lui donnerais la bande dessinée, il serait pas au courant. Il penserait que c'est un inédit d'Hergé, de Tintin. Il
ouais.
comprendrait pas pourquoi que les choses sont à l'envers, mais le dessin est identique.
Mais penses-tu qu'il y a... Parce que ça me donne l'impression, en feuilletant, qu'il a juste comme recopié des images des originaux, mais qu'il a comme superposé plusieurs images de plusieurs albums pour les mélanger, faire en sorte qu'on puisse pas dire c'est quoi exactement, mais...
Au début, c'est ce que je croyais, je le crois encore, mais il y a des ajouts qui font en sorte que tu peux pas retrouver ça dans un
ouais.
album classique de okay. Tintin. Si on regarde juste à l'arrière, si je regarde juste au début, Milou puis Tintin, tu sais, être dos à une caméra ou à une image,
ouais, non,
c'est un non-non, là, c'est un non-sens. Et là, tu sais, tu as des personnages de t'sais, de l'univers de Tintin, là, Joe, comment il s'appelait, Joe et leur singe, là, c'était comme l'autre projet d'Hergé. Ben là, sont nus, fait que je pense pas que ça marcherait. Professeur
Joe
Thomas...
Joe et Bébel, c'est ça?
Hein?
Joe et Zezette,
puis leur singe.
Oh boy.
Il y a 4-5 bandes dessinées, c'était un peu moins fort. Mais, et là, tu as aussi le professeur Tournesol qui est comme embroché, qui a du ketchup qui sort. Tu as les deux Dupont dans le champignon de l'étoile mystérieuse. Fait que sur ces belles paroles, on vous quitte à la semaine prochaine. On vous embrasse. Faites attention à vous.
Restez des nôtres sur CKUT
90.3 FM.
Bye bye.
Bye bye.
C'est toi qui commence.
D'accord. À tous mes amis super-héros, si vous avez à venir écouter à la radio CKUT 90.3.
In the case of symptoms similar to those of COVID-19, such as fever, cough, sore throat, loss of taste, or smell, you should take a rapid home screening test. If you test positive, isolate yourself at home and please follow the self-isolation instructions. If you don't have a rapid home screening test, please self-isolate for the recommended period. Visit quebec.ca/self-isolating for complete instructions on how to protect yourself and others. A message from the Gouvernement du Québec.
Being vaccinated against COVID-19 doesn't protect you from this. Or this.
Mom, what's for dinner?
Not this. This.
And it's looking like rain, rain, and more rain for this weekend.
This. Or even this.
Your call is important to us. Please hold.
But being vaccinated does protect you from the virus. Vaccination is still your best form of protection. A message from the Gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
You're listening to CKOT 90.3 FM radio in Montreal. Made in Brazil is starting now. I am your host, Daniel Shore. Made in Brazil is always broadcast for you on your 90.3 FM radio in Montreal every first Monday morning of the month. I have prepared for you a selection of Brazilian music for the next 2 hours,